Des fleurs mélangées?
Mélangées.
Des oiseaux de paradis, des choses comme ça ou quoi?
Quel goût, là, quand même?
Oui, d'accord. Ben oui, bon goût, c'est ça, ça va de soi. Parce que là, vous avez du très beau lys, là. C'est vous, là, qui êtes en train d'ouvrir?
Moi, mon nom, c'est Francis Guiton.
Vous êtes fleuriste depuis combien de temps?
Oh, cher monsieur, depuis l'âge de 17 ans et le brave homme va avoir 70 ans.
Donc, ça fait 60 ans que vous travaillez dans les fleurs?
Exactement, monsieur.
Est-ce que ça a changé en 60 ans?
Ça a changé pas mal, oui.
J'imagine qu'il y a plus de variétés qu'avant.
Ah, ben oui. Quand on a commencé, il y avait strictement de l'œillet et de la rose. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec toutes ces importations qui viennent de droite et à gauche, là, principalement d'Amérique du Sud, il y a une énorme variété de fleurs maintenant.
Est-ce que les fleurs les plus populaires sont encore les roses et les œillets?
Ben, disons, la rose, évidemment, l'amour. Il y a toujours des gens en amour à travers tous les âges, mais néanmoins, c'est certain qu'aujourd'hui, on va nous demander, disons, de la fleur exotique, différentes choses. Les jeunes qui vont venir vont dire, ben, vous me faites un bouquet, mais de fleurs, mélangées, assorties. Mais il n'y a pas de doute que la rose a toujours sa place.
J'imagine que ça va beaucoup avec les fêtes.
Oui, effectivement, il y a des pics, comme on dit dans le jargon, à savoir, disons, le plus gros, c'est la fête des mères. Il y a aucun doute, tout le monde a une maman. Alors qu'il y a des fêtes, qui étaient puis qui restent encore religieuses, comme Noël et Pâques, ben ça a baissé énormément. Ce n'est plus la même chose, mais disons...
Est-ce que vous engagez du monde supplémentaire juste pour la fête des mères?
Ah ben oui, pour la fête des mères, on est 5-6 là, et puis 2-3 chauffeurs sur la route, et puis ça n'arrête pas. Mais si on prend par exemple la Saint-Valentin, c'est le 14 février, alors tout le monde arrive en même temps. Vous savez, ici on fait la queue jusqu'au magasin, jusqu'à la porte, je dis bien là, puis... Ça attend même dehors. Vous avez facilement 35-40 personnes qui attendent à la queue leu-leu, là, comme si on allait leur servir un smoked meat. Là.
C'est comme chez Schwartz. Ici.
Exactement.
C'est chez le fleuriste Vogue sur la rue Wellington qu'on débute cet épisode de Dans le champ lexical. Cette semaine, c'est pas bien difficile à deviner, on tourne autour du mot « fleur ». On vous a donc préparé un véritable bouquet de reportages, de lectures de textes et d'entrevues. Alors restez sur les ondes de CIBL, vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot.
Évidemment, il y a de la verdure qui va avec. C'est bon? Alors, on voulait voir ça demain matin?
Vous savez, quand on habite en ville, on a souvent envie d'aller en campagne.
Oui.
Vous qui travaillez tous les jours, 8 ou 9 ou 10 heures par jour dans les fleurs, quand vous sortez d'ici, avez-vous envie de voir du béton?
Non, pas spécialement.
Vous ne tenez pas des fleurs?
Non. Moi, c'est mon... D'abord, ici, regardez, là, c'est la campagne en ville chez un fleuriste. Un fleuriste, c'est la campagne en ville, à savoir, on a de très belles choses, et puis un fleuriste doit avoir de très belles choses, parce que malheureusement, c'est un métier, je ne dirais pas qui se perd, mais c'est un métier très difficile. La conjoncture actuelle n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour personne, vous allez dire, mais néanmoins, c'est très difficile, parce que les fleurs, ça reste un peu un luxe. Vous allez avoir un steak peut-être dans votre assiette avant d'avoir un bouquet de fleurs sur la table.
À moins d'avoir des fleurs qui se mangent.
Oui, ben vous pouvez toujours cultiver des capucines l'été là, dans vos boîtes à fleurs. Ça se mange.
Ça, chérie, je t'ai emmené un bouquet. Ça va aussi être le souper.
Exactement. C'est ça qu'on appelle à boire et à manger.
Comme un vieux. Ensemble, tout me
Mon nom est Isabelle Saint-Germain et je suis directrice générale adjointe chez Équiterre. Je supervise tous les projets d'éducation, les projets terrain et les projets de sensibilisation.
C'est quoi le problème avec le bouquet de fleurs que je donne à ma mère à la fête des mères?
Présentement, en fait, ce qu'on voit, c'est que la majorité des fleurs qu'on retrouve chez les fleuristes sont cultivées au Kenya, en Tanzanie, en Colombie puis en Équateur. Donc, le marché s'est transporté plutôt dans le sud. Et ce qu'on constate, c'est que les règles environnementales et les règles au niveau des droits des travailleurs sont beaucoup moins sévères qu'ici au Canada. Donc, on se rend compte que dans plusieurs de ces endroits-là, parce que c'est comme un village de serres où est-ce qu'on cultive les fleurs coupées, là, les roses, les chrysanthèmes, etc., les fleurs, en fait, qui sont très communes, qu'on voit beaucoup ici, ils utilisent énormément de pesticides. Donc, il n'y a pas de règles environnementales. Les travailleurs sont en contact avec les pesticides, même à l'intérieur de la serre. Une fois que les fleurs sont coupées, bien, on retrouve des pesticides sur les pétales. Donc, ils sont toujours en contact avec ça, ce qui leur donne des nausées. Il y aurait même des associations avec certains cancers là, de la part de ces travailleurs-là. Et aussi, les conditions des travailleurs sont, disons, qui sont pas très envieuses parce qu'ils sont payés moins de 1 $ par jour. Puis ils travaillent entre 10 et 12 heures par jour.
Oui, vous avez bien entendu Élisabeth Saint-Germain de chez Équiterre. En amenant un bouquet de fleurs à votre tante Suzanne qui vous reçoit pour le réveillon, vous vous trouvez peut-être à encourager l'exploitation des travailleurs en Colombie ou ailleurs. À certains endroits, le travail des enfants est même toléré et il n'est pas rare qu'on répande des pesticides alors que les travailleurs sont encore dans les serres. Pourtant, c'est pas l'argent qui manque. Les fleurs, c'est des grosses affaires. On parle d'un marché de plus de 100 milliards de dollars par année. Le bouquet est moins beau vu comme ça, mais déprimez pas trop, il existe une solution. Comme pour le café, le sucre et le cacao, il existe maintenant des fleurs équitables.
On retrouve une douzaine de fleurs certifiées équitables, entre autres qui sont distribuées par la compagnie Sierra Eco. On trouve des roses, des chrysanthèmes, des œillets. Donc, des fleurs qu'on retrouve là, qui sont très communes, là, qu'on peut acheter chez les fleuristes.
Il y a moyen de se faire un beau bouquet de fête des mères diversifier avec ça.
Tout à fait. Elles sont très, très belles. Puis selon certaines boutiques de fleuristes, ils disaient que les fleurs équitables, il n'y a pas de différence de prix. À peine, il y a quelques sous de différence là, au niveau du prix des fleurs conventionnelles équitables. Donc, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup la peine d'acheter des fleurs équitables. Et selon eux, ben, elles sont de très bonne qualité puis elles durent un petit peu plus longtemps. C'est ce qu'on m'a dit. Ça a commencé environ 8 ans, surtout en Europe. Comment ça fonctionne, c'est que ce sont quand même des entreprises. Donc, dans le cadre du commerce équitable, c'est qu'on a mis en place des comités. Donc, les travailleurs siègent sur ces comités-là. Ils ont la possibilité de se syndiquer, ce qui n'est pas le cas dans le marché conventionnel. En fait, non seulement ce n'est pas le cas, mais ils sont fortement déconseillés de s'organiser. Donc, ils ont un revenu, en fait, qui correspond au salaire minimum requis dans le pays ou plus, c'est souvent le plus. Le comité d'employés va recevoir, en fait, le prix équitable donne 10 % de plus que le prix conventionnel. Et cette prime-là est utilisée par le comité d'employés pour investir dans des projets. Par exemple, il y avait un gros programme en Colombie pour aider les femmes enceintes, au niveau des soins de santé. Ils ont aussi des programmes pour améliorer les conditions dans les serres, donc diminution énorme d'utilisation des pesticides, justement, pour améliorer la santé des travailleurs. Donc, c'est le genre de projet qu'ils ont. Fait, je vous dirais, en gros, c'est qu'ils ont 10 % de plus que le prix conventionnel, puis ils ont droit de s'organiser. Les travailleurs ont des meilleures conditions, un meilleur salaire, puis ils ont droit de s'organiser en syndicat. Toutefois, dans le cadre des règles du commerce équitable, les productions ne sont pas obligées d'être certifiées bio, mais il y a une grande tendance à le faire parce que les gens, ils s'organisent, puis ils veulent améliorer leurs conditions, puis il n'y a rien de mieux que produire bio quand tu travailles dans une serre. Le fait que les producteurs de fleurs s'intègrent au commerce équitable, on a parlé de l'amélioration des conditions des travailleurs, puis ça aussi, ça passe à travers des meilleures conditions dans leur environnement. Et il y a des fermes certifiées équitables qui ont vraiment réduit l'utilisation des pesticides et, entre autres, une ferme en Colombie qui utilisait de 110 à 130 kg de produits agrochimiques, là, ce qu'on appelle les pesticides, les fongicides, parce qu'il y a beaucoup de maladies dans les serres, par année, puis ils ont réduit de 7 à 10 kg. Donc, c'est très, très, très significatif là, comme diminution d'utilisation des pesticides. Puis ça, c'est entre autres dû au fait que les gens ils ont commencé à s'organiser puis à vraiment essayer de trouver des solutions là, pour améliorer leurs conditions de travail.
Ça peut faire une grosse différence. Le commerce équitable, en général, peut faire une grosse différence dans les communautés où ils s'installent.
Oui, parce qu'on associe beaucoup le commerce équitable à un juste prix, c'est-à-dire de plus de revenus, mais c'est tellement plus que ça. Quand on parle de commerce équitable, c'est beaucoup l'organisation des communautés, que ce soit les travailleurs dans les plantations de thé ou dans les plantations de fleurs, mais aussi les petits producteurs de café. Ils ont la possibilité de s'organiser, ils connaissent mieux la valeur de produits qu'ils cultivent, donc ils sont plus en mesure de négocier après, parce que ça reste que la majorité des produits, même si la coopérative est certifiée équitable, c'est 5, 10, 20 % de leur production qui est vendue sur le réseau équitable parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Encore. Toutefois, le fait qu'ils soient organisés, ils ont amélioré la qualité de leurs produits, ils réussissent à négocier mieux dans le conventionnel pour avoir plus un meilleur prix pour leurs produits. Il y en a beaucoup qui investissent dans le bio, donc ça leur permet d'avoir plusieurs marchés qui sont plus lucratifs, des marchés de niche, soit de vendre leurs produits sur le réseau équitable ou le réseau bio, et ils mettent en place des projets là, intéressants, des projets communautaires. Dans le fond, ils compensent pour les services que le gouvernement devrait leur donner, soit des routes, des hôpitaux, des écoles, de l'eau potable. Donc, ils compensent à ce niveau-là. Donc, ils ont tellement, tellement de travail à faire que des fois, peut-être visuellement, on ne voit pas la différence, mais il y a une différence énorme, là, le fait qu'ils soient intégrés dans le commerce équitable. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas connaissance.
C'est l'organisme Fair Trade Canada qui se charge de la certification des fleurs équitables vendues ici. Le logo est bleu et vert et c'est écrit équitable dessus. C'est un peu dur de se tromper. Fair Trade Canada est associé avec un organisme international qui s'occupe d'aller sur place, dans les serres et dans les champs de fleurs, et de non seulement aller voir, mais aussi de parler avec les travailleurs et les gens qui sont sur les comités pour s'assurer que tous les critères du commerce équitable sont respectés. Et elles sont pas si dures que ça à trouver, les fleurs équitables. Il y en a chez plusieurs fleuristes, et celles qui sont vendues dans les épiceries métro, par exemple, eh bien, sont équitables.
Écoutez, il y a certains fleuristes qui ont eu beaucoup de demandes, donc ils vont mettre de l'avant les fleurs équitables. On le voit de plus en plus là, depuis 4-5 ans, parce que aussi, même si les fleurs équitables existent depuis plus d'une dizaine d'années, c'était beaucoup plus fort en Europe. Ici, c'est quand même assez récent. Mais là, on en entend de plus en plus parler, entre autres pendant la fête des mères, ils vont mettre les fleurs équitables en évidence.
Et est-ce que ça fonctionne? Parce que comme vous dites, ça fait une dizaine d'années que ça existe, puis je peux pas dire que j'en ai entendu parler beaucoup. Est-ce que ça fonctionne ou on parle encore de quelque chose d'un peu underground?
Ça reste quand même assez marginal. Il faut évidemment en parler davantage parce que c'est encore méconnu. On connaît plus les produits équitables, ce qu'on appelle les produits forts, le café, le cacao, les produits de consommation de sucre, les choses qui se mangent. On connaît moins justement les fleurs équitables ou même le coton certifié équitable. Et donc ça, c'est quelque chose dont qu'on veut faire connaître davantage. Mais ce qui est clair, c'est qu'au Canada, les ventes des produits équitables, de tous les produits équitables disponibles, en fait, sont en augmentation, incluant les fleurs équitables. Dans le fond, j'invite les gens à aller sur le site Internet d'Équiterre parce qu'on a un répertoire des points de vente de produits équitables au Québec. Donc, c'est intéressant de juste à rentrer son code postal puis on voit quelle épicerie offre des produits équitables dans sa ville.
Incluant les fleurs?
Oui, incluant les fleurs.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Dans les nuits de rose, mademoiselle, il a rendez-vous. C'est très important. Choisissez les nuits parmi les plus belles. Dans les nuits de rose, elle les aime tant. 20 ans, le cœur gonflé d'espoir et d'illusion. Il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans son printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. Choisissez-les moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses.
À nous la liberté. Oh, enfin le silence. Et ce cher Trifon qui taille ses rosiers. Comment se portent vos roses ce matin?
Non, pas du tout, capitaine. Au contraire, je vais vous confier un secret. Figurez-vous que je suis parvenu à créer une nouvelle variété de roses.
Magnifique!
Non, des roses blanches. Et devinez quel nom je leur ai donné.
Je donne ma langue au chat.
Oui, c'est ça, Bianca, ce qui signifie blanche en italien.
C'est l'ail! Tonnerre de Brest, qu'est-ce que c'était que ces zèbres qui ont détalé comme des lapins?
Ah mais oui, Bianca, tout à fait, comme notre charmante invitée.
Je me demande ce qu'ils fichaient là, ces gaillards.
Non, surtout n'en faites rien, pas un mot, c'est une surprise.
On entend présentement la version animée de Les bijoux de la Castafiore, un album de Tintin. C'est un album un peu étrange où au fond il se passe pas grand-chose, voire même pratiquement rien. Le bijou qui est supposé être volé est finalement pas volé. Capitaine Haddock attend qu'on vienne réparer une marche chez lui. La Castafiore fait des vocalises. Le professeur Tournesol invente une nouvelle sorte de rose. Puis, Tournesol étant ce qu'il est, il trouve évidemment le moyen de virer ça en un hilarant imbroglio, alors que deux journalistes viennent le questionner sur un possible idylle entre la Castafiore et le capitaine.
Nous sommes journalistes à Paris Flash. Voici notre carte.
Hein? Des journalistes? Je suis sûr que c'est au sujet de ma nouvelle rose.
Dites-moi, professeur, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr, n'y aura-t-il pas anguille sous roche du côté de la Castafiore et du capitaine Haddock?
C'est le capitaine qui vous a mis au courant.
Eh bien, c'est-à-dire que... oui et non.
Oh, sa perlipopette, il avait pourtant promis de ne rien dire, c'était un secret.
Oui, bien sûr, je comprends. Et c'est pour bientôt le grand jour?
Oh, vous savez que dans ce domaine, tout dépend du temps. Cela dit, je ne pense pas me tromper en vous disant 3 bonnes semaines.
Oh là là, crie Tournesol.
L'écrivain français Philippe Delerme, âgé de 62 ans, est assez connu pour ses recueils de courts textes et de poèmes en prose. Dans Le caractère de la bruyère, paru en 2012 chez Albin Michel, il s'applique à décrire, en très peu de mots, 40 fleurs et plantes. Le résultat est un petit herbier pittoresque à la beauté charmante. Je vous en lirai quelques extraits tout au long de l'émission. Il faut du jaune pour amorcer le mouvement, éclabousser la fin d'hiver. Les jonquilles prennent leur élan de loin, moins frileuses que leurs frères plus délicats, les narcisses. Bonnes filles, elles donnent de l'espoir, commencent à se gonfler dès le début de février. On craint le gel, mais elles sont têtues et finissent par l'emporter. Elles chantent avec leurs trompettes si évasées. Et que la lumière soit. Il décourage la cueillette avec cette excuse facile d'une tige insaisissable qui s'accroche à la grille, rampe sur le sol, ligneuse et rebelle. Ça l'arrange bien, le poids de senteur, car il sait qu'il susciterait toutes les convoitises. Fraîcheur du teint, on croit toujours qu'il est mouillé. Déclinaison parfaite de mauve pâle et de rose foncé, de blanc si pur. Visage dessiné avec une finesse exquise, le naturel en plus. Kamikaze du printemps, les fleurs de prunus pactisent le plus souvent avec une embellie presque glaciale. Est-ce de très bon goût ce déferlement rose soutenu sur fond de ciel d'azur? Les critères esthétiques lâchent du lest quand c'est l'énergie de l'année qui est en cause. Le rose agressif du prunus, c'est du sang neuf. On sourit malgré soi, on marche tête en l'air, tout est possible. Un petit frisoli de coiffure gaufrée, l'œillet connaît son charme. On ne va pas le vexer en lui disant qu'il est très démodé. On ne vaporise plus son parfum lourd avec une petite poire chez le coiffeur. Les hommes ne le glissent plus d'un geste fat au revers de leur boutonnière. Même dans les jardins, on en voit moins. Il vit avec son temps, d'avant.
Pourquoi les Québécois n'offrent pas de fleurs aux femmes? Grande question. Pour y répondre, il faut se poser une sous-question. Pourquoi les Québécois séparent les factures en deux dans un contexte romantique? Un peuple qui sépare des factures en deux à la Seine-Noire près, en faisant une règle de trois, au restaurant ou dans un bar, c'est un peuple qui n'a pas envie de faire des rencontres, c'est un peuple qui n'est pas ouvert à l'idée de rencontrer quelqu'un et de partager un moment, c'est un peuple qui n'est pas ouvert à l'idée de donner quelque chose sans compensation, sans retour d'ascenseur. Or, offrir un bouquet de fleurs, c'est un geste totalement gratuit, c'est un don total. Quand on offre un bouquet de fleurs à une femme, on ne demande pas quelque chose en échange. D'autant plus que les fleurs sont périssables, elles vont forcément débander dans le vase et finir aux poubelles ou au compost si madame est du type écolo-granola. Donc, offrir un bouquet de fleurs, c'est un geste gratuit. On ne peut pas séparer la facture du fleuriste en deux. Et la femme n'est pas tenue de rendre l'appareil à monsieur, soit en lui offrant un bien d'une valeur comparable ou en lui offrant un service. Monsieur aimerait bien que madame lui offre un service en nature après le bouquet de fleurs, mais offrir un bouquet de fleurs n'engage à rien. Alors, le jour où on retrouvera le plaisir d'offrir quelque chose gratuitement, sans exiger une contrepartie et sans arrière-pensée, peut-être qu'on pourra recommencer à séduire et avoir plus de plaisir à vivre en société.
Jean-Sébastien Marsan est journaliste, blogueur et l'auteur du livre « Les Québécois ne veulent plus draguer ». Vous êtes toujours à l'écoute de Dans le champ lexical et on continue de tourner autour du mot « fleur ».
Encore une fois, quelques extraits de « Le caractère de la bruyère », un livre de Philippe Delerme.
Il insiste, celui-là. On ne lui a pas dit qu'il était conçu seulement pour la rusticité. Dans les prés, où sa feuille se cueille à des fins alimentaires, il est à son avantage, le pissenlit ébouriffé, éclatant de soleil mûr. Mais il s'invite sans vergogne dans les massifs, et là, sans être trop puriste, il faut lui signifier qu'il n'est pas à sa place. C'est quand même terrible de se connaître si peu soi-même. Une beauté sans manière, la rose trémière. Habillée à la va comme je te pousse, avec des feuilles de chou rouillées, trouées. Haute tige, elle monte jusqu'au déraisonnable. Elle ne fera jamais le trottoir, mais le bord de la route, buveuse de soleil contre les murs chaulés. La maturité lui laisse une peau si soyeuse, de la carnation la plus pâle à la plus carminée. Dans le crépon fripé, son visage de grande dame plane au-dessus des contingences et d'un corps presque abandonné. Quand l'élégance outrancière semble faite pour ridiculiser la simplicité des congénères, on peut déplaire. L'iris est une cocotte, tout en mouvement affecté, les yeux demi-fermés, si prête au réticule, au ridicule. De quel secret mépris de soi faut-il avoir à se cacher pour se lancer dans de pareilles arabesques? On regarde, étonné. L'iris est tellement sophistiqué qu'on n'y comprend plus rien. On glisse entre ses dents la pâquerette.
C'est drôle parce que le fleur bleu, il... au premier abord, il ne m'intéressait pas tant que ça. T'sais, réellement, je n'ai pas décidé de faire un ready-made, un livre où il y aurait une histoire fleur bleue. Et puis, dans le fond, je suis allé au Harlequin pour sa forme, en fait, pour sa forme vraiment générique. Et puis, le fleur bleu est comme venu s'y coller par après parce que, bon, les Harlequins sont fleurs bleues. Et puis, je me suis mis à penser à ça, puis... Il y a de quoi d'assez fascinant dans le fleur bleu, dans la mesure où on est... on sait ce que c'est, pareil comme pour l'Harlequin, on sait ce que c'est le fleur bleu, mais c'est très, très dur de le définir, c'est très, très dur de venir mettre les bons mots pour bien expliquer ce que c'est. Marc-Antoine Coffaneuf, artiste et auteur.
Donc, Marc-Antoine... Toi, en général, tu fonctionnes beaucoup par, comment dire ça, par accumulation, par collection?
Oui, ben les deux sont valables. Je préfère collection parce que c'est réellement ce que je constitue. Mais oui, dans toute collection, il y a une certaine accumulation. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'accumulation à outrance, là, de prendre plusieurs objets d'un même type, puis de les mettre ensemble pour qu'on puisse les observer, les comparer, voir les différences. Et puis, bon, en art visuel, je l'ai fait avec des annonces de babillard, des trophées sportifs, des livres de cuisine vintage dont la couverture n'est pas toujours appétissante. Donc, je m'amuse beaucoup avec les objets de la culture pop, là. En fait, les Harlequins, je me suis longtemps demandé quoi faire avec. C'est un objet qui ne m'a jamais vraiment intéressé, mais en même temps, c'est un objet que tout le monde connaît. Tout le monde sait ce qu'est un roman Harlequin. Même si on n'en a jamais lu un, on reconnaît le couple en couverture, on reconnaît le titre, on sait d'avance ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et à un moment donné, en parlant avec des amis, puis en parlant avec mon éditeur, lui m'a dit « Ah, tu sais, les Harlequins sont interchangeables, tu pourrais enlever une page dans un, la mettre dans l'autre, et puis ça serait drôle parce qu'on verrait comme une cassure dans l'histoire. » Puis moi, je dis « Ah oui, c'est intéressant, mais je suis très perfectionniste, et puis... » L'idée qu'il y ait une cassure me plaisait pas trop, donc c'est carrément le processus inverse que j'ai amené. C'est là, je suis en train de construire, je l'ai commencé cet été, je suis en train de le terminer. Je suis en train de construire un roman où chaque page provient d'un roman harlequin différent. Donc le texte fonctionne d'une page à l'autre, les numéros de page se suivent, mais l'histoire est transformée à chaque page. L'histoire est en fait a un glissement à chaque page.
Tantôt, t'as dit quelque chose, t'as dit « Tout le monde connaît les romans, là,
okay? »
Oui. OK. Oui, tout le monde reconnaît la couverture et tout ça. Mais pour le bénéfice de nous qui n'avons jamais vraiment lu un roman harlequin, c'est quoi la colonne vertébrale, justement, de ça?
Oh, ouais, ça, c'est dur à dire, en fait. Mais l'idée du roman harlequin, ce que moi j'en sais, bon, après avoir travaillé avec, mais sans les lire, c'est qu'il y a toujours une espèce de tension entre un homme et une femme. Il y a toujours un flirt ou des fois une espèce de... Mais en fait, c'est vraiment...
Est-ce que ça aboutit à un moment donné?
Oui, ben, oui, je pense que ça aboutit, mais dépendamment des fonctions, dépendamment des collections... Tu sais, il y a des collections où il y a un baiser dès le début, puis après ça, bon, il y a de la tourmente. Il y a d'autres collections où le baiser va venir à la fin.
OK, il y a quand même des subtilités.
Oui, donc c'est ça. Puis en fait, je pense que chaque collection répond à un public. Mm. Mais c'est souvent, en fait, oui, l'histoire à rebondissement entre un couple, en fait.
Angie lui sourit et enfonça les mains dans les poches de son pantalon, luttant pour réprimer les sensations qui l'avaient envahie au cours de cette poignée de main terriblement troublante. La lueur diabolique qui scintillait dans les yeux gris de Tyler ne laissait aucun doute sur ses pensées. En de nombreuses occasions, elle avait surpris ce regard si particulier chez certains hommes, mais jamais cela n'avait eu un tel impact sur elle. Dans le regard de Tyler s'exprimaient l'envie et le désir, la promesse de longues nuits voluptueuses. Son regard exprimait également la gaieté, une gourmandise de plaisir et l'amour de la vie. Tout ce qui manquait à son existence depuis un an, mais qu'elle se promettait de retrouver. Oui, elle avait besoin de renouer avec la joie et la légèreté. Extrait de Bien plus qu'un flirt, de Shauna de la Corte, collection Passion.
Mais si on parle de... les remarlequins sont très fleurs bleues et c'est tout à l'honneur de la femme. C'est la femme qui est au centre de ça.
On s'adresse aux femmes. Même encore aujourd'hui, dans plusieurs arlequins, à la première page ou même des fois en deuxième de couverture, il y a une adresse aux lectrices, tu sais, qui s'appelle souvent « chère lectrice ». Donc, on ne s'adresse pas aux hommes ici, là. On s'adresse vraiment aux femmes, là, tu sais. Donc, un public qui... Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de collections, c'est que la femme s'est transformée, c'est... Tu sais, en fait, la femme a acquis son statut... En fait, non, ça, c'est dit maladroitement, là. Je vais essayer de pas dire quelque chose pour passer pour un macho, mais... Non, en fait, bon, tu sais,
la femme a
extrêmement évolué dans les 40 dernières années, le statut qu'elle a.
Oui, mais elle n'a pas beaucoup d'attitude là, dans les remarques.
Non, c'est, j'ai l'impression que souvent, on va montrer une femme qui va être plus forte, qui va prendre position. Donc, tu sais, il y a des collections qui répondent à ça. Puis ça, c'est intéressant d'aller voir, OK, bon, ben il y a vraiment différentes collections pour différentes situations, en fait, que peuvent vivre... une lectrice, comme il y a une collection où il y a toujours un enfant en jeu. Donc, on s'adresse à des mères monoparentales, ou on s'adresse à des femmes qui veulent rêver leur vie parfaite avec un bébé ou avec un jeune enfant. Donc, tu sais, je pense que Harlequin s'est modernisé là, à des nouvelles situations, là, au-delà juste de la liberté sexuelle.
Toi, t'as ta date 105
pages. 105
pages,
oui.
Qu'est-ce que ton histoire raconte?
En fait, je sais pas trop. Je l'ai pas encore lu.
Ah, OK. Donc, tu fais juste coller les pages.
Oui, je colle les pages. Je regarde. Quand je suis vraiment pas sûr, je lis une page au complet pour savoir où je m'en vais. Mais sinon, dans la plupart des cas, je regarde qui sont les personnages, qui a la parole. En fait, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans un salon, dans une cuisine? Est-ce qu'ils sont trois ou quatre? Quelle est la teneur de la discussion? Est-ce qu'ils se vouvoient ou ils se tutoient? Et puis après ça, bon, de là, ben, je peux établir, OK, ma prochaine page idéale, faut qu'ils se vouvoient, ils sont deux ou trois, c'est à une femme de répondre à un homme. Donc de là, je cherche ma page parfaite pour continuer. C'est très, très technique, c'est très méthodique là, comme travail de recherche. Donc oui, à quelque part, le sujet du fleur bleu m'intéresse beaucoup, tu sais, mais en même temps, je consens, comme je te disais, mon projet est aux abords du fleur bleu, là, tu sais, il tourne autour sans peut-être jamais rentrer dedans. Ce qui est drôle pour quelques petits bouts que j'ai lus, c'est que des fois, il y a des récurrences dans les harlequins, puis, tu sais, des fois, je me retrouve avec deux, trois pages où on a le même thème qui revient, tu sais, comme... un exemple, il y a deux pages consécutives où c'est une femme qui dit à un homme, et elle le dit pratiquement mot pour mot dans deux livres différents, elle dit « Je sais bien que tu n'as aucun plaisir à faire l'amour avec moi. » Donc, c'est la femme qui dit ça, qui annonce ça à l'homme. Et entre-temps, elle dit aussi à l'homme, le changement de page, c'est « ne fais pas semblant de dormir ». Donc, ça fait partie de l'histoire de cette deuxième page-là. Mais là, mélangé avec l'histoire de la première page, ben c'est comme si entre-temps, l'homme faisait semblant de s'endormir. Donc, ça vient un peu casser le fleur bleu. Ça vient un peu montrer comme des espèces de, je sais pas, de maladresse de couple. Ou tu sais, ça projette l'homme dans une espèce de personnage étrange là, qui fait semblant de s'endormir pour pas avoir cette discussion-là avec sa femme. Ou,
OK, mais tu sais, on pourrait dire que c'est très fleur bleue au contraire, puisque si ça, c'est le nœud de ton histoire, uh-huh. Puis que le dénouement, c'est toujours, tu sais, ça va bien finir, etc.
Oui, ça, c'est clair.
Dire que oui. L'intrigue n'est pas... le malheur qui arrive pour qu'il y ait un dénouement n'est pas immense.
Non, c'est clair. Dans plusieurs des cas, là, justement, l'intrigue est très légère. Là, mm-hmm. C'est vraiment, on se laisse porter par l'histoire. Oui, en fait, puis je pense que le livre, le produit fini, quand il sera achevé, il va avoir quelque chose de déceptif, justement, parce que ça a beau changer à chaque page, c'est jamais des grands rebondissements, c'est jamais des moments où on se dit « OK, qu'est-ce qui va arriver? » Ben peu importe ce qui va arriver, dans une page, on va être ailleurs. Donc,
ouais.
Ouais. Donc ça, oui, on revient aux fleurs bleues, comme tu dis, là. Oui, je veux que les gens puissent le lire assis dans leur fauteuil préféré, puis prennent le temps de le savourer comme un vrai roman arlequin.
Faux pas, affront, Pauline Marois a causé la polémique en épinglant à sa boutonnière un coquelicot du souvenir orné d'une fleur de lys. Des anciens combattants en ont été choqués.
Nous, en tant que vétérans, on réagit très mal. Je crois que Mme Marois a fait un faux pas majeur.
Ça, c'était le scandale du jour, le 3 novembre dernier. Pauline Marois avait accroché son coquelicot, celui qui honore les soldats morts au combat, avec une épingle ornée d'une fleur de lys.
On ne peut pas altérer le coquelicot d'aucune façon. Il faut le porter tel quel, comme c'est une marque déposée du souvenir.
J'ai appris auprès de la Légion qu'on porte le coquelicot sans autre symbole, par respect pour uniquement témoigner notre reconnaissance envers les gens, les Canadiens qui ont donné leur vie pour notre pays.
Dans ce local de la Légion canadienne, ça jase.
Ça m'a provoqué par rapport que j'étais un citoyen canadien au départ avant d'être citoyen québécois.
J'arrête le monsieur ici. Vous le voyez pas parce qu'on est à la radio, mais l'ancien combattant qui nous parle en ce moment, ben, il y a un drapeau canadien dans son coquelicot.
À la Coalition Avenir Québec, on y voit un affront politique.
Je pense que Mme Marois a fait ça pour faire plaisir encore une fois à sa frange radicale dans son parti.
Parce que, c'est bien évident, les radicaux ont dû déboucher le champagne en voyant ça. S'ils l'ont vu, bien sûr.
Mise au courant de la polémique, la première ministre a indiqué qu'elle portera dorénavant le coquelicot tel quel, sans fleur de lys.
Phew!
Au début des années 90, le poète Gaston Miron présente le spectacle La Marche à l'amour, où se mélangent poésie et musique. Il y interprète une chanson de sa composition intitulée Mon amour, la rose et le yé. On peut d'ailleurs en retrouver le texte dans le recueil Poèmes épars, paru chez l'Hexagone en 2003. En 2004, sur son album Récidive, Yves Lambert et sa pianiste Sylvie Genet revisitent la chanson. Lambert la présente dans le livret avec cette formule « Du temps où Gaston Miron composait de vieilles chansons ».
Il arrive que l'avenir se renverse dans le passé. Il arrive que le passé, le présent et l'avenir se nouent en un moment décisif. Et c'est alors, pour l'origine, l'occasion de donner ses traits au visage de l'avenir. Dans les départs et les paroles, elle m'a aimé en coup de vent. Était-ce vrai ou bien frivole? Je n'ai pas su savoir comment. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas. Je ne l'attends plus à la fenêtre, dans le cortège de la vie. Comme un oiseau va disparaître, l'amour au loin sera patrie. Les mois, les jours, les heures, toutes les nuits, mille autres nuits, pour fuir ce qui n'était qu'un leurre et retrouver l'amour qui lui. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas. On est des drôles de cannibales. On ne mange que ce qu'on aime et que ce qu'ils ont de meilleur. Et quand on a fini, on s'essuie avec un mouchoir. Un jour de naguère, un jour de toujours, elle était là au milieu d'autres jours. Je ne croyais revoir jamais la rose à côté de l'œillet. Mon amour, la rose et l'œillet, mon amour et les lilas. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas. Mon amour, la rose et le yem, mon amour et les lilas.
L'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai pour le glaïeul. Produit de luxe, il écrase ses rivaux. Peut-on appeler feuille cette gangue caoutchouteuse qui l'entoure? Il crée ainsi sa solitude en floraison altière, de préférence dans cet oranger qui fait rire les esthètes, le flamboiement du nouveau riche. Et quelle profusion sur la hampe infiniment dressée, qui toise et qui méprise! Il finira par trouver sa mémère en fourrure pour un cadeau à l'estomac. La fleur d'hortensia, considérée de près, n'est qu'une petite bonne femme qui sort de chez le coiffeur. Elle en a la rotondité, la roseur échauffée par l'épreuve du casque, le volume un peu boursouflé. Passe encore pour l'illusoire permanente, mais le pire est parfois qu'elle réclame une couleur et c'est alors du bleu, toujours. Un bleu artificiel et très vite incertain. Elle rêve d'élégance et reste au clan Pateau des Bichonnets. Et si l'on oubliait qu'il est la fleur des morts? Le chrysanthème est tellement emprisonné en rangées infinies, dans des pots ronds, chez les fleuristes, dans les jardineries, dès qu'octobre s'avance. On ne le choisit pas, en l'achetant, on s'acquitte du prix du souvenir. Pourtant, le chrysanthème est beau, d'une rousseur qui ne demanderait qu'à s'épanouir jusqu'à la sensualité. Mais il est mort d'avance, mort de l'idée de mort.
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. On vous laisse sur ce proverbe chinois.
Tu peux pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite.
Non,
faut
c'est
que t'attendes.
Cette semaine, Lisanne Rault-Leblanc et sa voix florale nous ont lu des extraits du livre « Le caractère de la bruyère » de Philippe Delerme, édition Albin Michel, 2012. Mathieu Charlebois nous a dit comment on donne un bouquet de fleurs à notre amoureuse sans exploiter les travailleurs. Jean-Sébastien Marsan, journaliste, blogueur et auteur, nous a parlé de la signification du bouquet de fleurs, selon lui, dans la drague. Christiane Campagna nous a présenté la chanson « Mon amour, la rose et l'œillet » de Gaston Miron, revisité par Yves Lambert et Sylvie Genet. Et j'ai rencontré Marc-Antoine Coffaneuf, qui devrait bientôt nous offrir en librairie un roman harlequin rapiécé. Notre thème musical est une création originale de Marat Tremblay et Sonny Duval. Dans le champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joannie Larue, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Revenez-nous la semaine prochaine, on va parler grandeur.